Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez KatchaCast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti.
John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion.
Ça va, Dave Bick, en calant sa tenace, Dave Bick!
But I know you people don't understand what Kata Nai Battle.
Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro du KatchaCast. On est ensemble pour parler catch, évidemment, et sur une thématique bien particulière aujourd'hui, mais je suis accompagné, et je suis accompagné de deux personnes de qualité, en l'occurrence Mickaël. Salut Mickaël.
Bonjour.
Et Félix.
Yo.
Félix Navedas. Parce que, comme vous l'avez vu sur un live Mind the Game KatchaCast, on est maintenant bilingue espagnol. Ouais. Oh l'allé.
LV2.
Voilà. On avait joué à Guacamelee, qui est un jeu qui mixe donc jeu d'exploration type Metroidvania et Lucha Libre.
Avec
voilà.
Des Easter eggs de la Lucha Libre.
Ouais,
du monde
et,
de la Lucha
et même du catch en général. Ouais, ouais. Donc ça vaut le coup d'aller voir au moins peut-être des petites vidéos. Mais c'est pas ça dont il va être question. Quoique. Il est question un petit peu de coq assez classe, de luchadores assez influent, assez impressionnant, parce qu'on va vous parler aujourd'hui de charisme. Alors le charisme, qu'est-ce que c'est? Donc on va pas vous faire évidemment une définition Larousse, mais c'est ce qu'on va essayer déjà à chaud de définir ensemble, et puis de voir ce que ça peut induire dans les domaines très divers et variés du catch, sous toutes ses formes. Moi je pense qu'on peut proposer de manière très global, peut-être deux éléments qui vont vraiment marquer le charisme chez un catcheur ou une catcheuse. Ça va être les capacités in-ring, donc techniques en tout genre, high flyer, au sol, etc. Et les capacités au micro. Donc la prestance, l'oralité, l'art de la rhétorique. Je sais pas si on part sur cette base-là, s'il y a des sous-exemples, d'autres... Mickaël, déjà, peut-être autre chose à ajouter.
Non, mais en tout cas, on peut être bon au micro et ne pas être charismatique.
Oui,
donc
complètement.
C'est encore...
Peut-être que la troisième qui n'est pas une vertu, c'est le côté complètement aléatoire, c'est la réaction du public. C'est si la sauce prend, mais ça, on verra, parce que c'est un
facteur,
ensemble.
Le
X-Factor.
Tu peux être excellent, aussi
excellent.
Bien au micro que dans le ring, mais manquer de cette... peut-être cette confiance et de la...
Et qu'est-ce que le charisme? Parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Et je pense que oui, c'est ça la question qu'il va falloir se poser, c'est qu'est-ce que le charisme, qu'est-ce qu'on attend d'un catcheur, est-ce que le charisme c'est ce qu'il faut pour qu'un catcheur soit un bon champion ou perce ou soit un bon champion? Il y a des catcheurs qui peuvent fonctionner mais qui ne feraient pas des bons champions. Ça arrive très fréquemment, malheureusement, il y a peu de catcheurs, je pense, qui font des bons champions.
Alors j'isole deux trucs dans ce que tu viens de dire, c'est qu'est-ce qu'on attend finalement au niveau du charisme. Ça induit deux choses, c'est est-ce que, si j'inverse l'idée, est-ce que les spectateurs sont entre guillemets les mieux placés pour, enfin c'est à eux que c'est destiné, mais sont, on va dire, comme on dit par exemple pour des spectateurs de cinéma ou des joueurs de jeux vidéo.
Quoi.
Ouais, voilà, c'est-à-dire est-ce que des fois les spectateurs ou les joueurs de jeux vidéo sont pas leur pire ennemi? C'est-à-dire est-ce qu'il faut pas forcément leur donner nécessairement ce qu'ils attendent ou ce qu'ils définissent comme charisme? Il y a ça d'une part, et puis il y a le deuxième élément que je donnais un peu plus tôt, c'est que c'est des choses qui sont écrite, donc évidemment avec une tendance, je pense que c'est pas Félix qui va me contredire à ce niveau-là, à destination de quelqu'un, donc d'un public. Donc quand c'est écrit, il y a toutes les intentions de se dire « Ah tiens, ça c'est classe, ça c'est stylé, ça c'est... » Je donne un exemple très con, Darby Allin, que je pense on aime plutôt bien à l'unanimité ici, que moi je trouve... relativement charismatique pour plein le concernant, en gros, le type, quand il a écrit son personnage et les gens qui sont venus rajouter progressivement dans les fédérations où il a évolué, s'est dit bah tiens, je vais faire un mec en skate avec un délire morbide. Tu vois ça sous le papier isolé avant l'incarnation, tu te dis mais de la merde quoi, surtout genre le skate en 2010-2020, mais qu'est-ce que tu racontes? Et pourtant ça marche du feu de Dieu, parce qu'il en fait vraiment quelque chose avec sa patte. Enfin voilà, on peut partir de ça. Je sais pas si déjà sur cet exemple là il y aurait d'autres éléments.
Pour Darby Allin, et ça c'est un truc qui rabâche depuis des années, c'est ce personnage-là, bon, le côté morbide, c'est le côté un peu gothique. Je pense que c'est
émo.
C'est son style, peut-être, je sais pas, vestimentaire, de musique qui te dépeint là-dessus. Mais le côté skater, c'est parce que le mec, c'est un skater de base.
Oui.
Il est skater. Il
mais je veux dire, il a très bien pu ne pas l'intégrer.
Oui.
Il aurait pu se dire, c'est pas classe, ça risque de nuire à mon personnage.
Ce dont je veux parler, c'est le côté, les meilleurs catcheurs, c'est toujours ceux. Qui essaye d'être eux-mêmes sur le ring, mais d'augmenter le volume. On l'a entendu partout, cette expression, dans le catch. D'être plus grand qu'ils ne sont dans la vraie vie.
Larger than life.
Voilà. Est-ce que c'est ça la formule pour être charismatique?
Non.
Je ne sais pas. Par exemple, si Finn Balor, il devait être comme il est dans la vraie vie, mais en plus exagéré, c'est un mec qui passe sa vie à faire des Legos.
Oui. C'est un monsieur tout le monde par excellence. Ouais.
Qui est hyper timide dans la vraie vie.
Et qui pose en I devant les photos, devant les monuments du monde.
Voilà, donc...
il faut avec jamais dire ça à Vince McMahon, hein, qu'il passe sa vie à faire
ils l'ont filmé, hein. Ils le savent.
Il va terminer avec un gimmick, je te dis pas.
Tu imagines.
Je vois déjà ça.
Des Lego Technics.
Et pourtant, Finn Balor, certes, c'est pas peut-être le plus charismatique, mais il a quand même du charisme.
C'est un bon exemple, parce que Finn Balor, parce que le charisme, est-ce que c'est la personne qu'il a, ou est-ce que c'est la façon dont il est brandé,
par lui-même exemple... se brande d'ailleurs, parce que c'est chelou de dire ça comme ça.
Pour Finn Balor ou pour
Darby Allin.
Pour Darby Allin, le maquillage par exemple fait pas mal, parce que bon, Finn Balor en gros.
C'est vrai que j'avais même pas.
Oui, mais même avant le maquillage, il y avait quelque chose. Et là, on le revoit à NXT où il a abandonné le maquillage.
Quand on dit quand on dit maquillage, on parle de son personnage du Demon. Hein, des fois que certains se diraient qu'il est
ego,
qu'il a d'affreuses pustules sur la tronche, ça n'a rien à voir.
Ouais. Non, c'est vrai. Après, est-ce qu'il est charismatique? C'est ça le truc. C'est qu'est-ce que charisme et est-ce qu'il est charismatique? C'est-à-dire que
regarde l'Undertaker par exemple. Quand il a pris sa personnalité et il l'a augmenté, c'était ça à sa période American Badass où c'était le biker. Hyper badass justement, alors que ce qu'on retient de l'Undertaker, c'est quand même son personnage de croque-mort un peu surnaturel, et ça on considère que c'est plus charismatique.
Oui, parce que c'est un cas où je pense que Taker, quand il s'exprime sans prendre sa voix,
waouh, imitation
incroyable.
C'est mieux quoi.
Je pense que Taker, le truc c'est que justement quand tu l'entends parler en vrai, il n'est pas spécialement charismatique. Alors que paradoxalement,
il n'est pas très extraverti non plus.
Il est probablement assez charismatique.
Surtout avec sa béquille maintenant.
Je pense que paradoxalement, backstage, il est assez charismatique parce que backstage, je pense que c'est un peu un daron et que c'est un peu lui qui fait la loi.
Non,
donc en fait, il est charismatique.
C'est
en même temps, il n'a pas l'air charismatique.
Tout le monde
mais
le
pourtant,
dit. Hein, maintenant
il est charismatique avec son gimmick.
Maintenant qu'il est quasiment à la retraite, c'était lui le leader des vestiaires pendant des années et des années.
Je pense
c'était
que si
même.
Tu te mal avec lui,
et c'était même le juge. Parce que dans les vestiaires, quand il y a un problème entre catcheurs, il faisait des séances limites comme au palais de justice avec... Non mais c'est vraiment ça, avec des jurés et des juges. Et
Objection.
C'est toujours lui le juge et il réglait ça comme ça. Et c'est toujours lui qui disait « Ok, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as tort, maintenant c'est toi qui va faire ses lessives ou c'est toi qui va porter ses sacs parce que t'as merdé. »
On a levé déjà encore une autre case de l'arborescence.
Vestiaire de catch, c'est encore un autre épisode.
Ouais, voilà, c'est qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires qui s'exprime autrement dans un exemple qui nous est cher aussi, la NJPW. En l'occurrence, là, c'est un autre délire de hiérarchie avec
le dojo.
Les Young Lions, etc. Qui, là, est peut-être le négatif au sens photographique de la question du charisme. Parce que les Young Lions, très souvent, on leur laisse aucun attrait remarquable. Ils sont en bottes noires et en slip noir.
Ce qui pose la question des vêtements comptent pas mal aussi, du coup.
Oui, voilà, bien sûr.
Mais mine de rien, c'est leur méthode pour trouver ceux qui ont le plus de charisme que les autres, quoi, parce que ils sont tous identiques, entre guillemets, ils sont censés être identiques, ils ont la même tenue, ils ont les mêmes cheveux, ils ont les mêmes prises, et pourtant ils arrivent à se différencier,
à faire passer quelque chose.
Il faut qu'ils fassent passer quelque chose avec ses limites, ses contraintes vachement extrêmes. Genre, je sais pas, moi, quand on parlait comment il s'appelle,
ressemble à quoi, il fait quoi, il a quoi,
celui qui a fini qui est plus à la New Japan et qui était vachement stoke,
mais Elgin,
non, un Young Lion,
c'est pas grave, on retrouve
Kitamura,
bien sûr.
Lui, bon, en dehors du physique qui était hors norme par rapport aux autres Young Lions, il dégageait quelque chose, il faisait réagir le public. Donc c'est aussi leur méthode à eux pour trouver les stars. C'est pas leur donner le personnage le plus cool, c'est plutôt les restreindre.
Après,
et voir comment ils se débrouillent avec.
On pourrait se poser la question, est-ce que la New Japan tolère le charisme, en fait? C'est-à-dire que la New Japan, il y a tellement des valeurs d'humilité au final.
Bah,
en
si temps, il ne tolérait pas le charisme, Tanahashi ne serait pas là. Hein.
Oui, et puis justement, Okada est quand même quelqu'un qui... Parce que, est-ce que le charisme, c'est ça, en fait? Parce que par exemple, est-ce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que Ibushi, qui est tellement discret, est-ce qu'il est charismatique?
Ah oui, à sa manière, bien sûr. Après, je te réponds.
Il a pas d'éloquence, mais il a la prestance.
Ouais. Est-ce que le charisme, en fait, c'est ça le truc, c'est que.
C'est ce qu'on disait au début. Il y a le in-ring, il y a le.
Oui, et puis non, mais si je.
Il y a le physique et il y a le verbal plutôt. Quoi.
Oui, mais surtout sur la question du charisme. Est-ce que le charisme, c'est l'autorité, par exemple? Parce que par exemple, pas forcément justement.
D'après ce que j'en ai lu, oui.
Bah en tout cas, par exemple, Ibushi n'a pas d'autorité, il n'a pas l'air d'un mec qui est un leader. Est-ce que avoir du charisme, parce qu'en fait c'est ça, est-ce que dans le catch, avoir du charisme, c'est être un leader? Parce que je pense que le problème qui se pose souvent, par exemple, il y a souvent des gens dont on se dit ça ne fonctionnera pas s'ils étaient champions, parce qu'au final c'est ça la finalité de tout ça. C'est est-ce qu'on peut être champion?
Est-ce qu'on peut être la star?
Ouais. Et pour ça, il faut quand même être un leader, je pense, sinon ça fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens.
Mais quand tu es comme... leader, ça veut dire.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Avoir les épaules une fois que tu es.
C'est mener les autres catcheurs ou c'est mener les.
C'est avoir l'air du mec qui gère la barre, qui représente la compagnie. Et tu vois, John Cena, bon, quand il est champion. D'accord. Il a l'air du boss, quoi. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois, Kofi Kingston, quand il est champion, on a toujours un peu l'impression que.
C'est celui qui a le plus de confiance en soi, en fait, quoi.
Non, ou simplement qu'il va être en adéquation. Kofi Kingston, mais... tu veux dire, c'est le personnage un peu rigolard.
Kofi Kingston, pas que rigolard, mais il a une espèce peut-être d'humilité aussi naturelle. Ouais. Il y a peut-être un truc d'arrogance.
Alors moi, ce que j'en avais noté avant l'émission, parce que le charisme, et on s'en rend compte là par nous-mêmes, c'est quand même vachement vague, c'est abstrait comme phénomène. Moi, j'avais essayé de rassembler un peu des trucs que j'avais vus ça et là... Il y avait par exemple, il y en a qui parlaient de fascination irrésistible qu'exerce une personne sur d'autres personnes pour les inspirer. Il y a avoir une certaine authenticité et transmettre une crédibilité dans la portée de ses actes.
Oui, ça revient à ce que disait Mickaël. Est-ce que tu peux porter l'image de.
Voilà, exactement. Il y avait une phrase, par exemple, je finirai là-dessus, je vous laisserai la parole. Il y avait, que j'avais trouvé pas mal, c'était en imposer pour ne pas avoir à imposer, voilà en quoi consiste le charisme. Voilà.
Oui, parce que moi, je pense que si au final, parce qu'on se demande qui est charismatique ou pas, et on se demande un petit peu à ce que ça veut dire, je pense qu'en tout cas, si on se pose la question de la finalité, donc de qui peut être champion au final ou pas. Après, c'était pas la question qu'il faut se poser, hein, mais je pense que c'est quand même. Si on se demande si quelqu'un est charismatique ou pas, ça veut dire est-ce qu'il peut être une grosse star ou pas. Après, on peut être une grosse star sans être le champion. Mais en tout cas, moi, j'ai tendance à penser qu'il faut avoir du leadership. Alors, oui, alors ça veut dire.
Ça ramène aussi la question des titres. par exemple. C'est-à-dire, on peut avoir un charisme en étant plutôt champion intercontinental ou plutôt champion. Bah, ce que je veux dire, on parlait d'avoir les épaules et de représenter. On voit aussi que le charisme façonne les titres et inversement.
Ouais, il y a une grosse phrase comme ça aussi. Enfin, on peut, je parlais de, ouais. de la phrase de. D'être larger than life, mais il y avait ça aussi. Ça, c'est un truc de, c'est un concept de Triple H, ça, qu'il a toujours lancé. C'est genre, c'est pas le titre qui fait le champion, mais c'est le champion qui fait le titre. Le truc qui va un peu rien dire, mais est-ce que c'est
bah
vrai?
Bah, si, moi je trouve.
Oui, mais est-ce que c'est vrai?
Ah, bah, moi je trouve tout à fait. C'est-à-dire, moi je vais te donner un exemple. Le premier qui me saute à la gueule comme ça, ça a été. Parce que moi j'ai pas toutes les arcanes, l'histoire, enfin, pas une connaissance aussi encyclopédique du catch que d'autres, mais le titre américain à la WWE. À l'époque où John Cena était dans ses défis comme ça ouverts, pour moi, ça lui allait à la fois comme un gant, et pourtant, c'était pas un mec qui m'intéressait plus que ça. Mais en tout cas, cet axe-là, de ce titre-là, qui venait être une forme soit de faire valoir, soit de, comme ça, de tchatch, bah, Kevin Owens l'a repris après, et ça s'est exprimé dans d'une autre manière. Ça marche très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette assertion-là. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a un vrai problème repérable quand une ceinture, entre guillemets, ne veut plus rien dire. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de charisme.
Il n'y a personne pour, ouais. Pour la représenter.
Pour lui réinjecter du sang neuf, on va dire.
Mais ça peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que je pense que quand la ceinture a perdu de son poids, un catcheur charismatique peut lui redonner de l'importance. Et après, quand elle a repris un peu d'importance... Elle peut aider un catcheur qui l'est moins, qui va du coup, je pense, que ça peut marcher dans les deux sens, en fait. Quoi.
Encore un autre exemple, Naito. Naito qui a acquis ce fameux titre historique des deux ceintures, qui pose, qui clive énormément les gens. Je sais que toi, Michael, t'es vraiment pas emballé par le fait qu'il ait ce sacre suprême, que t'étais pas le seul, que beaucoup s'attendaient à ce que ce soit Kota Ibushi ou au moins Okada, et que finalement ça lui revient et que ça fait un truc où beaucoup de gens vont dire mais enfin, le mec il sert à rien quoi, il a aucun charisme pour porter pas seulement le titre suprême mais deux titres hyper emblématiques.
Et puis dans ce sens là il y a aussi, dans l'autre sens plutôt, il y a le truc de mais non, lui il a pas besoin d'avoir le titre parce qu'il est déjà au-dessus des autres, il a un charisme à part. Il y a eu beaucoup ça avec Undertaker, il y a eu ça avant avec je sais pas, moi, le nom qui me passe à l'esprit, c'est Jake the Snake Roberts.
On a tous des exemples. Ouais. Ricochet, plus récemment, pour moi, il a pas besoin de titre. Hein. Il a voilà, une forme d'aura. Même Velveteen Dream.
Alors que pourtant, c'est la récompense.
Oui, je sais que t'es pas d'accord.
Ah ouais, sur Ricochet et charisme. Je sais pas.
Oui, mais après, moi, c'est vrai que Ricochet, je le mettrais plus dans le charisme, pas à l'époque WWE, mais plus Lucha Underground. Quand il était en prise Puma.
Okay, j'ai pas vu ça. Par rapport à son personnage, quoi.
Ouais.
Mais
c'est
ouais,
c'est encore une autre question, ça. Quand on a la question du charisme masqué ou non masqué, c'est-à-dire jusqu'à. Enfin bref, mais t'avais une idée, on va pas trop aller dans tous les sens.
Pour en revenir à ce que j'essayais de développer, mais c'est parce que je réfléchis en même temps. Mais en fait, je pense que la question du charisme, j'ai essayé de me dire quel est le résultat de ça, et par rapport à justement, est-ce que c'est intéressant par rapport à l'idée de champion ou pas. Je pense que. Quand on se demande vraiment est-ce que quelqu'un est charismatique ou pas, je pense que le vrai problème qui se pose d'un point de vue purement matériel à ce niveau-là, c'est on met ce mec, on donne la ceinture à ce mec, la semaine prochaine à Raw, il doit faire, ou toutes les semaines suivantes, il doit faire 5 minutes d'intro, lui seul, avec le public, en heel ou en face. Est-ce que ça marche ou pas, quoi?
Dans le cas de la WWE.
Et ça marche pas avec, plein de catcheurs. Il y a plein de catcheurs, ça n'irait pas du tout. Et typiquement, voilà, pour utiliser Ricochet est très talentueux.
Ouais,
mais si Ricochet devait ouvrir Raw toutes les semaines avec une promo de 5 minutes,
c'est sûr.
C'est compliqué.
Est-ce que parce qu'il manque de maîtrise de leur art, entre guillemets,
c'est vrai, je pense que art, c'est pas que ça, moi.
Au sens pluriel du terme, ou est-ce qu'il manque de créativité,
est-ce que tenir, même si c'est un peu contradictoire à ce que j'ai annoncé avant, est-ce que tenir aussi cette promo, c'est exclusivement au micro? Majoritairement, oui, Mais par exemple, moi j'ai souvenir de Ricochet quand il a été titré à NXT, ça passait beaucoup pendant un temps en fin de show et en début de show, plus par du high fly quoi. Il venait, il sautait, il faisait des cabrioles, ouais, mais... plus que de parler.
Oui, et puis et... même il y avait l'acting aussi. Je... Tu parles de ça, genre quand il faisait une acrobatie qui retombait sur ses pieds.
Bah ouais, face à Velveteen Dream, c'était génial.
Ouais,
vas-y,
mais
viens.
Le truc, c'est toujours le problème en fait, ça dépend dans quel brand on est. C'est oui. toujours le problème de l'épisode de South Park qui nous explique que. Le catch, c'est du théâtre. En tout cas, à la WWE, en tout cas, à Raw et à SmackDown, et aussi probablement à l'IW, je pense, qui est quand même sur un format assez traditionnel, similaire à WWE.
C'est un peu plus foutraque quand même, la EW. Ouais.
Mais si on a un champion qui pourrait pas...
Félix, c'est pas d'accord.
Un champion
non,
qui pourrait s'exprimer...
Pas par foutraque, mais vas-y, Michael.
Bah, par rapport au schéma là, des 5 minutes dont parlait Michael, de tenir le show les 5 premières minutes.
Ouais, mais ils ont quand même un champion, tu vois, c'est Jericho le champion, quoi.
Oui.
C'est quand même ils ont quand même besoin d'un champion, là aussi... qui va pouvoir s'exprimer et être un personnage à la télévision.
Oui, exactement.
Il pourrait pas avoir un champion qui est juste bon dans le ring.
Dans n'importe quel contexte, il peut tenir la baraque pendant 5 minutes sans problème.
Et moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, est-ce que c'est, donc le charisme, donc est-ce qu'il lui manque, est-ce que c'est la créativité ou quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'il y a un problème. Moi, ça a toujours été ma théorie. Je pense que le catch, personne, aucun catcheur, je pense pas en tout cas, n'est un acteur incroyable, n'est Al Pacino, il va inventer un personnage complètement différent et tout. Les catcheurs, le problème, c'est qu'on voit, on perçoit la personnalité derrière leur personnage. Ou leur personnage doit être empreint de la personnalité parce qu'ils ne peuvent pas nous tromper complètement. Je pense que. Et c'est le problème de la personnalité, on le sous-estime dans le sens où pour moi. Alors du coup, c'est un peu horrible parce que du coup, c'est inné ou ça l'est ou ça l'est pas. Mmh. Mais je pense que. En même temps, voilà, il y a le problème par exemple de Taker. C'est son gimmick qui est charismatique, c'est pas lui. Même si je pense qu'il est capable de faire vivre son gimmick, donc c'est qu'il a quand même chez lui quelque chose qui fonctionne là-dedans. Mais je pense qu'on peut arriver à faire fonctionner du charisme de façon artificielle, mais je pense que de façon générale, dans 95% des cas ou dans 99% des cas, le charisme, c'est la personnalité. Et c'est pas aussi simple que le mec est super badass, super cool, super autoritaire, donc du coup, non, et c'est, parfois il y a des gens, ils ont presque tout. C'est le fameux hit factor dont on parle parfois. Il y a des gens, ils ont l'air de tout avoir. Bah, par exemple, Seth Rollins, il est quand même. Maintenant, il est très bon au micro, et voilà, c'est un catcheur excellent. Il a été pushé pendant des années, c'est quelqu'un d'important, c'est une star et tout. Pourtant, voilà, quand il est champion en face, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et ça vient à sa personnalité, ça vient aussi, c'est con, ça vient à sa voix, je pense. La voix peut porter.
Sa gueule pour certains.
Sa gueule. Je pense que quelqu'un comme Ziggler a toujours énormément souffert de sa voix, par exemple. Mm. Qui, pour le coup, il a l'air d'un mec qui geint tout le temps. Il est là.
Pour un mec qui fait du stand-up,
et du coup, tu peux pas vraiment l'imaginer en mec super badass qui est le roi de la brand, quoi.
Après, moi, j'ai deux questions. Ça rejoint ce que tu dis là. Est-ce que c'est la grande question du charisme en général. C'est est-ce que c'est inné ou est-ce que tu l'as acquis
pour l'acquérir
au fil des années. Genre Chris Jericho. C'était pas inné, il avait une personnalité drôle et tout ça, il était un peu rigolard, on va dire,
et ça s'est affiné
au fur et à mesure qu'il a maîtrisé son art, il a pu le développer et le mettre en avant comme
après
fallait,
tu mûris et ta personnalité se développe, mais je pense qu'en tout cas ça vient de la personnalité. C'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé par exemple que le problème qu'a toujours eu Roman Reigns
c'est d'être Roman Reigns.
Oui, mais non, mais son problème c'est que il est censé être un mec badass.
Mais c'est un mec calme et sobre.
En fait, c'est le fameux truc quand on monte sur un cheval et on nous dit toujours, on m'a toujours dit ça, moi ça m'a énervé parce que j'ai toujours eu plein de mauvaises expériences avec des chevaux. Et on me dit toujours, non, mais n'aie pas peur.
Sauf une fois au
chalet. N'aie pas peur parce qu'il sent que t'as peur. C'est toujours le truc qu'on dit avec les animaux. Mais je pense que le public, quand le mec est en train de mitonner, il le sent.
Ou de bafouiller et tout.
Oui, il y a quand il bafouille, mais même. Quand il essaye de faire un truc qui est un peu forcé, il le sent. Et je pense que c'est pour ça. Ouais, le d'accord. Truc, c'est que quand les gens qui sont charismatiques, pour moi, c'est les gens qui naturellement ont un leadership qui fait qu'ils peuvent... Voilà, c'est des stars de cinéma, quoi. Ils peuvent être là, Stone Cold ou The Rock, même si ça n'a peut-être pas toujours été ça peut évoluer. Ou CM Punk, ils sont là, on a l'impression que c'est les boss, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ils peuvent être les champions parce que ça peut fonctionner. Et je pense que c'est horrible parce que du coup il y a des catcheurs, ils peuvent bosser leur charisme, leur personnage, tout ce qu'on veut, ça marchera jamais vraiment. Alors, et c'est pour ça qu'il y a des gens comme Ziggler, ça fait des années qu'ils essaient de le pousser, mais en fait ça marchera jamais vraiment parce que au final il évoque le mid-card, il évoque pas le champion.
Moi j'aimerais prendre deux exemples qui vont un peu t'emboîter le pas. Un que tu as illustré par par le titre d'un live, à savoir Rhea Ripley, et avant elle Asuka. Alors je vais m'expliquer dans l'ordre. Rhea Ripley, la question que tu posais sur un live, c'était de se demander est-ce qu'elle est vraiment charismatique. C'est plus le questionnement in ring, est-ce que c'était vraiment la meilleure, est-ce qu'elle était au top in ring et d'un point de vue charismatique au micro.
Comparé à Roman Reigns.
Oui, voilà, tu as dit que c'était la Roman Reigns au féminin. Alors, en soi, même si je la porte au nu et que j'aime beaucoup cette catcheuse, de manière pragmatique, tu as raison. C'est pas la meilleure au micro, c'est pas la meilleure in-ring, mais elle a effectivement un physique impressionnant.
C'est la plus remarquable.
Ouais, dans le non-verbal, dans les rares petits moments de grâce, effectivement, au micro. T'as résumé, Félix. C'est la plus remarquable.
En premier, dans l'eau, de toutes ces.
Dans l'eau, parce que voilà, elle a un physique atypique. Elle a un look. On parlait de Darby Allin,
ouais,
hyper.
Pour le coup, elle vient de loin aussi parce que elle, c'était la. Enfin, elle a catché plusieurs presque années à NXT avant qu'on la remarque vraiment,
ouais,
quoi.
Ouais,
et c'est quand elle a changé de look. Qu'elle a changé certains traits de sa personnalité, peut-être, en tout cas à l'écran.
Et sa musculature aussi.
Du coup, là, c'est le cas.
On parle de charisme visuel, du coup, ça qui est rigolo.
Bah oui.
Et moi, quand je parle de personnalité.
Ça se trouve dans la vie, genre comme Balor. Est-ce qu'il a du charisme dans la vie,
non, mais. Ah non, mais Balor, comme moi, quand je le vois comme ça, j'ai pas l'impression qu'il ait de charisme,
c'est...
en fait.
Après, c'est un switch, cette question-là, ça sert à rien. On peut être excessivement banal. Moi, je pense, quand tu vois les photos off de Kevin Owens, je pense qu'il est charismatique, qu'il doit être un bon compagnon, mais il y a un gap entre le switch quand il est sur le ring, quoi. C'est monstrueux.
Enfin, pourtant, c'est pas ce qu'il disait à Michael, c'est pour ça. Il parlait de la personnalité du catcher qui transparaissait.
Oui, ce que je veux dire, c'est que par exemple,
je voulais quand même terminer sur le deuxième exemple qui emboîte le pas à ce que tu disais, Michael, surtout sur le côté non-verbal. Je pense à Asuka parce que Asuka, malgré son apprentissage plus ou moins, moins que plus de l'anglais, elle est quand même restée sur tout son règne qui a été monstrueux. Le plus long. Si, ça reste le plus long en date
chez
NXT.
Pour l'instant, je crois que oui.
Ouais. Et qu'en plus, détail suprême, elle n'a pas perdu la ceinture. Ça, c'est vraiment le truc de dingue. Et pourtant, Asuka, c'est quoi ? C'est ce switch, effectivement, avec son personnage, ce masque, et puis ce moment où elle switch entre sa personnalité plutôt un peu rigolarde, bariolée de couleurs, et puis où elle passe en mode berserker. Et là, il y a un personnage. Alors, je rajouterai quand même un truc et après, je m'arrête là. C'est son côté. Je pense que ce qui a beaucoup joué en sa faveur, c'est peut-être réducteur, puisqu'elle a plein de talents in-ring et dans ce qu'elle exprime. Ouais. Mais c'est aussi la dimension exotique. Moi, je pense que pour pas mal de gens.
Différente des autres.
Ouais, oui. C'est-à-dire de là, on va dire du gros nombre de catcheurs, on va dire caucasiens ou noirs voilà. Donc ça joue, c'est-à-dire que quand elle est arrivée, elle aussi est arrivée à une période où progressivement elle a ouvert aussi une brèche pour les catcheuses japonaises et même japonais peu après avec Kushida. Enfin voilà, je m'arrête là, j'ai lancé pas mal de petites idées.
Ouais, c'est vrai, dans le non-verbal, il y a le plus gros exemple, mais c'est un super exemple celui-là, mais le plus gros exemple du charisme non-verbal, c'était Goldberg à l'époque.
Ouais.
Quand il a débarqué, le mec, c'était que du charisme en boîte, quoi. Parce que c'est vraiment le booking forcé à la Roman Reigns ou à la Ryback, genre il finit tout le monde, voilà, alors qu'il vient de nulle part. Mais personne ne l'a rejeté parce qu'il avait un charisme de malade. Et pourtant, on le laissait pas parler. Il parlait sur le ring, il parlait pas seulement il parlait aussi par l'acting.
Mais ouais, voilà, mais il doit être charismatique.
Il jouait la domination.
C'est-à-dire que
c'est un
exemple,
beaucoup,
tu peux être charismatique en étant mauvais au micro. En fait. C'est-à-dire que, à la limite,
voilà.
Tu peux être charismatique en étant silencieux, parce que juste, voilà. Et la preuve, c'est qu'en fait, maintenant qu'il est plus vieux et qu'il arrive à peu près à s'exprimer et qu'il fait des promos, il est plutôt charismatique, parce qu'il a quand même. Après, c'est le côté aussi plus ancien. Il a un côté.
Meilleure confiance en lui, peut-être, au micro.
Oui,
quoi.
Voilà. Et du coup, ouais, il est clairement assez charismatique. Et non, moi, dans les exemples, par exemple, de faux charisme, pour moi, on parlait de Rhea Ripley, mais je pourrais, alors là du coup je vais me faire des ennemis, mais
c'est pas la première fois.
On pourrait la comparer aussi. Moi je trouve que Becky Lynch, j'ai un problème avec Becky Lynch, je trouve que Becky Lynch elle fait semblant, elle fait toujours semblant.
Ah bah tu vois,
je la trouve très mauvaise actrice.
Je suis plutôt d'accord avec toi.
Et je trouve que Becky Lynch, elle a cette espèce de côté, regardez, je suis super cool,
je pense que...
Mais elle en fait des pataquesses.
En fait, elle en fait des pataquesses. Mais je pense qu'elle a un charisme, parce que ça vient pas de nulle part non plus.
Oui.
Genre quand elle s'était fait péter le nez ou la bouche, là, qu'elle était en sang et qu'elle était badass, pour le coup. Elle avait une confiance en elle de fou. Ou mais alors quand elle parlait à Edge, qu'elle avait une répartie, une éloquence. Improvisé en plus, vachement impressionnante.
Après, alors, est-ce que
on pouvait que être admiratif.
Est-ce que les scripts de AWE peuvent briser le charisme de quelqu'un?
Quand il y a un Roman Reigns qui te parle de céréales ou je sais pas quoi, là, il y a quelques années, ça n'a rien à voir avec son caractère, enfin son personnage.
Des céréales tu confonds pas avec les New Days
Sakatash ou je sais pas quoi, je sais plus.
D'accord.
Mais c'est une promo qui est connue pour avoir détruit un petit peu le personnage. Non, mais là, en ce moment, au hasard, Kevin Owens, du coup, en ce moment, il détruit complètement son personnage. Vous regardez Paro en ce moment. Kevin Owens, c'est quand même quelqu'un. Kevin Owens, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui a beaucoup de personnalité et qui a un personnage qui est. Parce que c'est aussi ça dont on peut parler. Qui a un personnage qui a plusieurs facettes et qui est assez multidimensionnel et assez intéressant. En ce moment, ils sont en train de le transformer en un face de base. Tout ce qu'il dit, c'est « c'est Rollins, tu parles trop, moi je vais venir sur le ring et je vais te montrer. »
Je vais fermer ta bouche,
je vais te péter. Il fait que ça. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, Kevin Owens, genre sa personnalité, son esprit a quitté son corps, il n'y a plus personne.
Il est en pilote automatique.
De marionnette, Donc ils sont en train de le détruire en fait, et pour l'instant ça n'a pas encore montré ses effets, mais à un moment donné les gens vont finir par se lasser de lui parce qu'ils l'auront détruit. Donc oui, ils peuvent aussi, le charisme peut aussi s'éliminer. On peut parler dans l'autre sens aussi de ça, mais
et il y a alors moi je voulais juste parler d'un truc. On parlait du charisme sur le ring et au micro, mais en général les exemples qu'on donnait pour le charisme verbal, c'était des gens qui catchaient plutôt bien. Mais genre par exemple là c'est peut-être moi qui vais me faire des ennemis pour le coup, mais CM Punk mine de rien c'est un catcheur très très bon, mais pas excellent, pas du tout du niveau où on est actuellement. Et pourtant il était hyper charismatique, parce qu'au micro personne ne lui arrivait à la cheville, quoi. Donc on peut être super charismatique en étant vachement bon au micro, et pourtant sur le ring on est sloppy, on fait des botches.
Mais c'est pas simplement bon au micro, c'est que je pense qu'il y a un truc moi qui est aussi qui est important, c'est que quand tu vois les promos par exemple de The Rock ou de Stone Cold, il y a un truc qui est...
Oui, The Rock, très bon exemple aussi, mec pas super gros catcheur, mais dingue au micro.
Oui. Et non, mais le truc, c'est que il y a. Mais je crois, est-ce qu'il a toujours été aussi? Parce que je crois qu'au début, il avait du mal. Enfin, quand il a commencé, c'était.
Ah, quand il a commencé, c'était chaud, hein.
Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Le truc, c'est une question. Alors là aussi, une question d'autorité, c'est aussi une question de. Je pense que les catcheurs qui sont très charismatiques, vraiment, genre. Les plus charismatiques, c'est-à-dire, on va dire, des gens comme Mick Foley, Cena, The Rock, Stone Cold, vraiment les plus charismatiques.
Dans l'histoire. Les exemples.
Ouais, dans les gros exemples de très, très charismatiques, c'est des gens. Ils te donnent pas l'impression, et ça c'est un gros problème à AWE de nos jours, ils te donnent pas l'impression d'être des gentils employés qui sont paniqués de Vince McMahon. On a l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils disent ce qu'ils veulent, même si c'est scripté. Voilà. Alors c'est peut-être aussi que c'était mieux scripté pour eux à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pourraient avoir ça, mais en fait, on leur fait dire tellement des bêtises, comme l'exemple que je donnais avant avec Kevin Owens, qu'au final, ça détruit complètement l'impression que c'est des mecs qui font ce qu'ils veulent. Ils sont juste là et ils font partie des autres employés, ils font leur job et tout le monde donne un peu cette impression aujourd'hui.
Une fois, tu te disais, on sent que c'est forcé, quoi.
Que le conformisme, en fait, tue le charisme actuellement.
Le conformisme, mais le fait que la WWE cherche vachement... Alors, je sais qu'à un moment donné, il était question, on n'a jamais vraiment su si c'était vrai, mais il est, par rapport au charisme, c'est intéressant. Justement, après CM Punk, je pense, la WWE, qui a quand même eu des soucis avec CM Punk, est partie un peu... dans l'idée de ne plus avoir des stars qui pouvaient
leur porter préjudice,
des problèmes et être peut-être plus important qu'eux, et avoir un peu que des, et je pense que c'est ce qui les tue à petit feu, avoir que des, donner l'impression que c'était la WWE qui était importante et pas les catcheurs. Et du coup, toutes les personnalités qui seraient charismatiques sont étouffées. Donc voilà, Owen c'est un des meilleurs exemples, mais c'est sûrement pas le seul. Enfin, Zayn est aussi très charismatique quand il veut, en fait. En tout cas, en heel, je trouve qu'il est hyper charismatique.
El Generico, ouais, le mec ça, moi, qui j'ai... parlait pas du tout, enfin, qui se forçait à pas parler.
Oui, mais c'était un underdog quand même, enfin.
Oui, mais on imaginait pas, était hyper charismatique quand même, quoi. Ouais. Tout le monde était à fond derrière lui, c'est un autre genre de charisme, quoi.
Parce que, ouais, ouais.
J'avais un autre exemple en pensant à des personnages qui parlent pas beaucoup et de personnages masqués. Il y a par exemple le personnage de, on en parlait récemment avec Félix, parce qu'il était sur le live, sur l'affiche invité du dernier show Qatari, c'est Mil Muertes. Et là, pourquoi je parle de Mil Muertes, pas simplement parce qu'il est masqué, mais parce qu'il était dans une fédération et dans un univers très particulier, c'est-à-dire ouais. On était dans l'univers construit des luchadores
autour,
ouais.
Autour de ce genre de personnalité, quoi.
Voilà, et sa personnalité, alors on parle souvent de mythologie dans le catch, hein, Roland Barthes l'a fait bien avant nous, mais en tout cas, lui, c'était un peu le summum de ce qu'on peut avoir en termes de mythologie, alors je vais être extrêmement dans la caricature, mais aztèque ou en tout cas sud-américaine, on va dire, de représentants comme ça de l'univers des morts. Fait...
Mil Muertes, même avec son template, j'ai envie de dire, Lucha Libre. Je ne trouve pas mes mots, mais bon, voilà, on va parler
son
comme
moule,
ça.
Son moule, Lucha Libre.
Ouais, c'est quand même l'exemple typique du catcheur. Celui qui gagne, en tout cas. Le catcheur qui gagne. N'importe quel catcheur, quand on pense au catch de tous les temps, on va dire, que ce soit aujourd'hui ou avant, c'est quand même la figure du catcheur, celui qui est fait pour gagner dans un combat
qui domine, là pour le cas de Mil Muertes, en tout cas
qui domine physiquement son adversaire, mais aussi qui peut reprendre le dessus quand l'autre arrive à s'en sortir et qui finit vraiment en beauté, et on sait que c'est fini, on peut y croire, quoi.
Oui, et on peut y croire d'autant plus avec Mil Muertes qu'au-delà de ses capacités, de son langage corporel non verbal, etc., qui avait, je répète, hein, toute une mythologie qui aidait énormément. Il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas, voilà, une mystique. Il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'il y avait plein de délires d'histoires de médaillons, de pouvoirs ésotériques, etc., de résurrection. Mil Muertes, tout est dans le titre, hein, même si vous n'êtes pas bilingue espagnol comme moi et Félix, voilà, mille morts. Et en plus de ça, il avait aussi une acolyte, Katarina, qui le suivait et pouvait aussi enfoncer le clou sur le charisme et la tendance de domination. C'est-à-dire, à chaque fin de match, elle venait donc faire une espèce de baiser de la mort où elle embrassait, où elle léchait en fait l'adversaire vaincu
pour le marquer,
voilà, du saut des Mil Muertes, donc de la mort de
ouais,
cette.
Il y a ça aussi, c'est le rôle du manager encore dans le catch, c'est
Paul Heyman.
Paul Heyman, par exemple, c'est transmettre le charisme à quelqu'un d'autre en le rendant important, et vu que toi qu'on croit, on entend tes mots qui sont vachement éloquents, on va te croire, ça va être crédible pour nous.
Ah ouais, ce petit gars qui s'excite depuis
donc
plusieurs
si
semaines
pour toi,
à dire qu'il est bon.
Si pour toi, ce mec-là là, que tu soutiens, il est important.
Ah, Michael.
Si pour toi, ce mec-là, il est important, alors pour nous, il est important.
Moi, je trouve
si j'ai pu le faire, tout le monde peut
le faire.
Je
trouve que ça marche plus, à moi personnellement, en tout cas en tant que spectateur.
La mécanique du manager ?
Ouais, je trouve que quand tu... Ça peut être bien pour les promos, quoi, parce qu'en effet, si le mec peut pas faire de promo, il peut y avoir un manager qui fait des promos, ça fonctionne. Par contre, ça ne valorise absolument pas le mec qui est managé, ça me donne juste l'impression... Au contraire, pour moi, ça le castre, en fait. Quand je vois Andrade qui est avec Zelina, ça me donne juste l'impression que ben Andrade n'est pas foutu de faire une promo et qu'on lui fout Zelina. Et pour moi, ça ne le rend pas du tout plus charismatique.
C'est vrai.
Surtout que Zelina, elle interfère beaucoup dans les matchs et des fois
ouais.
Pour le faire gagner. Donc, du
en
coup,
plus, c'est
pas
temps,
trop ouais. Lui qui gagne.
C'est ce qui fonctionne un minimum. Hein. Moi, c'est ce qui me fait tenir sur Andrade. C'est qu'effectivement, elle a ce côté sidekick un peu pernicieuse et que ça a commencé à d'autant plus marcher quand Andrade a vraiment épousé ce moule vraiment assumé. Parce qu'il y a un moment, c'était un peu dans l'entre-deux.
Mais par exemple, là, comme elle a été remplacée par son compatriote Garza Junior,
ouais.
Garza Junior parle bien anglais, peut faire des promos, et probablement plus charismatique. Enfin,
il se complète bien.
Ouais, il se complète bien. Et lui, par exemple, n'a pas forcément besoin de Zelina, donc c'est déjà un équilibre un peu différent.
Mais lui, il a autre chose encore. Je dirais qu'il y a le charisme, mais il y a
le
charme
aussi. Il a le pantalon stripper.
Lui, il est charmeur.
Il est charmeur, mais en même temps...
Et mine de rien, c'est un peu la même chose, c'est la même racine étymologique.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est charmant, plein de piment? C'est Sancho le Cubain.
En même temps, Andrade est très 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 beau gosse aussi.
Ça se voit qu'il est extraverti.
Pas Charlotte qui
a charme. Et il sait qu'il est charmeur. Donc il y a ça, c'est un autre genre de charisme. Là, tu charmes les gens, tu les séduis.
Ouais.
C'est pas tu les fascines, tu les séduis. Ouais. C'est encore autre chose.
Je pense que c'est vraiment différent. Là, la nuance, elle est vraiment différente. Alors qu'en plus, ils sont sur le même cliché, entre guillemets, du lover latino, on va dire.
J'y pense, là, comme ça. Ça va te faire chier, Michael. Mais c'est un peu ce qui se passe avec Sanada et le public japonais. Parce que pour moi, Sanada, il est dénué de charisme. Pourtant, le public japonais, il kiffe Sanada.
Bah, c'est intéressant parce que, par exemple, Sanada...
Est-ce que c'est juste non, parce c'est qu'il a du charme ?
C'est ce qu'on disait pour certains. Sanada, il a un charisme visuel. Après, en effet, quand il s'exprime, il a l'air complètement vide.
Quand il pleure, surtout.
Non, mais il n'y a pas que quand il s'exprime. Quand il cache, non, moi, la plupart du temps, je me fais chier. Ouais, hein.
Ça, c'est un problème. Non, en plus, tu as reconnu, toi aussi, qu'il t'a quand même vu quelques bons matchs avec lui.
Non, mais c'est pas un mauvais catcheur.
Ouais, non, fois, non, mais c'est ça qui nous tue. Il y a eu un match avec Okada qui était considéré comme un démoti l'année dernière. Donc, il peut pas
match
être si
of the year.
Il peut pas être si mauvais.
C'est ça qui nous tue, justement.
Mais lui, oui, il est vide. Et par contre, visuellement, il a une tête de malade. Il a un look assez incroyable, quand même. Je veux dire, c'est un personnage de jeu vidéo, quoi. Donc,
putain, les mocassins.
Voilà. Oui, bon, il y a jaune. Ça après. Mais le Japan, c'est hyper intéressant, le charisme, parce qu'il y a plein d'exemples très, très bizarres de gens qui ne sont pas... Il se passe des choses.
Ouais, le chat, il agresse.
Il y a plein d'exemples très très bizarres de...
Le chat éthique
et de gens qui n'ont pas un charisme traditionnel et qui... le Japan utilise ça assez bien. Après, il y a un autre truc, mais alors ça, c'est plus par rapport au problème de micro. Je me souviens que j'avais déjà parlé de ça il y a un moment, mais...
Kevin Owens
Non. Non, il y a un truc que j'aimais bien, moi, à la TNA, à l'époque où je regardais.
Oh.
C'est qu'ils étaient assez forts... Pour prendre des gens, en fait, le problème, c'est quand il y a des gens qui ne sont pas charismatiques, ils ne savent pas trop quoi faire avec. Ils essaient de leur donner un personnage un petit peu bigger than life, mais généralement, c'est justement. C'est toc et ça ne marche pas, une gimmick. À TNA, ils étaient très forts pour un truc, c'est travailler vraiment avec la personnalité. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce qui est vrai ou pas. Je pense que le catch a besoin de quelque chose de vrai assez souvent. Et du coup.
T'es en campagne là ?
Pourquoi ?
Ça faisait très.
Il est en mode Cody.
Ouais, ça faisait très campagne.
Ah. Donc tout ça pour dire que à la TNA, à un moment donné, ils étaient assez forts pour prendre des gens qui auraient été catastrophiques, qui d'ailleurs avaient été catastrophiques, par exemple comme Matt Morgan à la TNA, et de les laisser à la WWE, et qu'ils les laissaient un petit peu s'exprimer à leur rythme. D'ailleurs, Edge Styles, quand il arrive à la TNA, il est catastrophique en promo. Hein. Et à la TNA, il a énormément progressé en promo. Parce qu'ils l'ont laissé, ils ont réussi à créer un personnage qui était assez proche de lui.
Oui,
en l'occurrence,
surtout,
c'est un idiot.
Ils ont mis en avant ses forces. Ils ont essayé d'écarter, enfin, de pas jouer sur ses faiblesses justement.
Oui,
il s'est pas beaucoup exprimé, mais pourtant il a joué sur le mec qui savait tout faire sur le ring, qui était vachement
oui,
impressionnant, qui était même drôle parfois.
Il avait tout un personnage, oui, un peu comique et tout et tout. Non, ils sont beaucoup plus forts pour trouver ce qui va fonctionner chez quelqu'un. Donc, ça, on pourrait penser que peut-être qu'en fait, du charisme, il y en a un peu chez tout le monde, mais qu'il faut juste aller le chercher. Quoi.
Regarde, par exemple,
oui,
à la ECW.
Ça, j'en suis convaincu.
Le truc que je viens de dire, c'était le leitmotiv de Polyman à l'époque. C'était, par exemple, Taz, le personnage de Taz. Avant, c'était le Taz maniaque. C'était pathétique, quoi. C'était un personnage de dessin animé, quoi. Mais vraiment dessin animé pourri, pour le coup. Et après ils l'ont travaillé, Polyman il l'a travaillé, il a mis en avant ses forces dans un personnage qui pouvait les en jouer et il est devenu le catcheur emblématique de la ECW à ce moment-là, le mec qui pouvait tout gagner en étant vachement menaçant alors qu'il était pas si grand que ça, pas si musclé que ça. Mais pour partir sur autre chose, sauf si tu veux réagir Michael, parce que je vois que tu dans le micro.
Non, ça me fait penser au dans les catcheurs, enfin pas vraiment similaire à Taz, mais je pense par rapport à ce qu'on disait, où, en fait le charisme peut être visuel, il peut être par rapport à la personnalité, il peut être par rapport aussi au catch, on va dire. Alors moi avec Ricochet, je m'en rends pas compte, mais je veux bien te croire. Ceci dit, mais par exemple, je pense que quelqu'un comme Tomohiro Ishii, qui est mon catcheur quand même préféré, encore plus que Owens.
Oh.
Non, après c'est pas pareil quoi.
C'est facile de dire.
Si on me demande quel est le meilleur catcheur, je dis Tomohiro Ishii, après mon préféré quand même Owens, mais bon. C'est difficile, c'est compliqué. Mais toi, Tilko Ishii, je pense que...
Ce joueur de bento, quoi.
Pendant ce temps-là, Sanada pleure tout seul dans son coin.
Ah bah ça, ouais, il y a encore du progrès à faire pour être mon préféré.
C'est l'émission de toutes les annonces. Mais, pardon,
mais
donc,
non,
ton
mais
héros
Ishii, c'est intéressant parce que Ishii, est-ce qu'il est charismatique ? Est-ce que, quand on le voit faire une promo, d'ailleurs, il dit jamais rien, il dit... c'était fatigant, salut.
Il se barre, c'est ses promos.
Mais parce que pour lui, il en a rien à foutre, c'est son
mais
personnage
voilà.
aussi.
Mais est-ce qu'il est charismatique ou est-ce que lui, en l'occurrence, son charisme, je pense, vient énormément de la façon dont il se comporte dans le ring.
Oui.
Et donc, sa ring psychologie, la façon dont il peut revenir, dont il hulk, dont il vend plus les coups à un moment donné. Tout son charisme vient de son calcul.
C'est surtout quand il défie son adversaire du regard.
Oui.
C'est encore une fois, c'est la confiance. Pas forcément la confiance de la personne réelle, mais la confiance du personnage. J'ai tellement de confiance en ce que je fais que je te défie d'en avoir autant que moi. Et le public ne peut que respecter ça.
Oui,
puis
c'est aussi qu'il tient son personnage. Il y a aussi un truc, c'est... Ah oui, c'est... Là, c'est par
le comme Mundir qui tient sa femme, quoi. Il tient son personnage.
Non, mais c'est pas ça ce que je disais. Parce que je disais que, pour moi, ce qui fonctionne, c'est quand il y a un peu de vérité. Mais je pense que les gens qui sont les bons acteurs, c'est qu'ils arrivent à avoir un peu de vérité dans ce qu'ils font.
Et puis
ils
la preuve...
Complètement, voilà.
Les seuls avec qui ça marche, la symbiose à ce niveau-là, c'est actuellement, c'est Takagi et Suzuki depuis un moment. C'est parce que c'est des mecs qui sont dans ce genre de délire-là aussi et qui ont un charisme dans le côté défiance, quoi. Vraiment, qui fonctionne très très bien.
Et je pense que tenir son personnage, c'est... Il y a peu de catcheurs qui tiennent bien leur personnage. Je sais que, par exemple, moi, un catcheur que j'aimais beaucoup qui est décédé, c'est Umaga.
Umaga,
c'était juste, il avait un gimmick de gros sauvage.
Le gimmick
mais
du
il
pouce.
Tenait son personnage pendant tout le match. Quoi. Je me souviens de ce match assez légendaire, qui est probablement le meilleur match de sa carrière, où il se faisait étrangler par les cordes. Enfin,
John Cena avait
enlevé les cordes du ring et l'étranglé avec pour terminer le match. Et Umaga était c'était un méchant de film du début jusqu'à la fin. Quoi. Et dans les catcheurs que j'aime bien moi aussi, en parlant de charisme, parce qu'on parlait de NWA Power,
merci.
Kennedy est un des catcheurs les plus charismatiques qu'a eu la WWE. Malheureusement, ils n'ont pas su l'utiliser comme il fallait, mais il avait un charisme. C'est-à-dire que c'est le genre de mec, quand il est arrivé à SmackDown, quand il a débuté à SmackDown, c'était presque immédiatement un main eventer tellement il avait...
Oui.
Après, c'est intéressant très, très parce que là, c'est qu'il était très à l'aise au micro, c'est qu'il avait une voix assez impressionnante. Hein. Je ne vais pas le faire, mais...
Mr. Kennedy.
Voilà, pour les voisins. Et il faut le dire deux fois, normalement.
Kennedy.
C'est la blague. Mais en tout cas, lui, c'est pas simplement ça. C'est que ce qu'il a, que peut avoir Owens aussi, c'est qu'il avait un personnage. Il y a ce truc, en fait, où il y a plein de catcheurs, parce que c'est ça aussi le charisme. C'est les personnages. Il y a... Quoi ?
Non, le côté formule hyper habité par le truc, c'était génial. C'est ça, le charisme.
Non, mais
on s'est regardé.
C'est que... Non, mais...
On était impressionnés. T'étais charismatique.
Les catcheurs... généralement ont du mal à camper un personnage et on leur donne un personnage où ils essaient d'avoir un personnage où on leur donne un personnage qui n'est pas vraiment eux, ils ont du mal à le camper. Et il y a des catcheurs qui arrivent et bam, c'est des personnages, quoi. Tut-tut. Et donc, dans ce genre-là, il y a Kennedy, il y a Owens. Et Kennedy, il était je veux juste replacer un peu historiquement. Il était, tout de suite, tu vois, là où il était charismatique, il était différent des autres. C'est-à-dire que dans le SmackDown de l'époque, tu avais tous les catcheurs qui étaient voilà,
ça,
je suis un mec méchant, un gentil, voilà. Et Kennedy arrive, et immédiatement ils font un truc qu'ils faisaient pas à l'époque, enfin pas avec d'autres catcheurs à ce moment-là, c'est qu'ils pouvaient même pas le booker comme un face ou un heel, c'est-à-dire que le mec arrive et naturellement c'était un heel, mais qui avait une dynamique de face, c'est-à-dire qu'il était
c'était
over,
un thriller, quoi.
Et je me souviens d'un moment très, c'est ça le charisme, parfois c'est le booking aussi. C'est qu'à un moment donné, il y avait il y avait une espèce de promo pour le Royal Rumble, je sais pas quoi, et il y avait tous les heels qui étaient sur le ring et tous les faces qui étaient sur le ring. Et lui, en fait, il était au milieu, il n'arrivait pas à se trouver un endroit et il s'est fait tabasser par tout le monde. Et c'est comme ça que tu fais une star, en fait, quoi. Il était indépendant. Tu n'arrivais pas à en faire juste un simple heel ou un simple face. Pourquoi ? Parce qu'il avait naturellement, dans tout ce qu'il faisait, et dans le ring et dans ses promos, il dégageait une personnalité qui était beaucoup plus complexe et réaliste et humaine. C'est ça, en fait, le truc.
Ouais,
il avait l'air d'un humain, alors que la plupart des catcheurs ont l'air de faire leur job et d'essayer de faire un truc qu'on leur demande, mais ils n'ont pas l'air d'être des humains.
Alors, j'ai un exemple qui est assez récent dans l'explosion de l'incarnation de ce personnage-là et de son charisme, même s'il en avait énormément avant, c'est Kota Ibushi. En fait, Kota Ibushi, ça englobe deux trucs. Ça englobe à la fois est-ce qu'il est humain, est-ce que ça se rapproche de ce qu'il est dans la vie de tous les jours, et d'autre part, comment est-ce qu'on peut, ce que disait Félix tout à l'heure, jusqu'à quel point est-ce que ça se travaille, est-ce qu'on peut polir un rôle. Et Ibushi, moi je pense qu'il a
Poli, mais si.
Je la polie, messire. Non, c'est Jacquard d'ailleurs, c'est pas messire. C'est je la lustre, je la polie. Bref, j'ai digressé, graissé. Kota Ibushi, le truc, c'est que on le connaît pour ceux qui le suivent ou qui se sont rencardés après l'avoir découvert de la DDT, donc cette fédération japonaise très excentrique, dans laquelle il a complètement explosé, même au sens littéral du terme, ce qui se mettait des pour faire un petit dédicace à notre ami Jérôme, non pas des nouilles dans le slip, mais des feux d'artifice dans le slip. Et en l'occurrence, il a voilà, c'est son truc. Tu sens que ça fait partie de son personnage au naturel, ce côté casse-cou, ce côté. Et ça a été mis un peu sous cloche énormément à l'époque d'ailleurs, Golden Elite vraiment la Smala de Kenny, aujourd'hui AEW avec les autres, et Kota Ibushi qui était à côté avec lui en tant que Golden Lover. Et c'est revenu depuis peu, notamment lors du match contre Okada, dans toute sa splendeur, cette espèce de personnage comme ça, complètement explosif, casse-cou, mais
pas comique,
poussé à l'extrême. Hein,
ouais, mais pas comique pour le
sérieux.
Coup.
Non,
ouais,
absolument
plutôt
pas.
Plutôt serial killer que.
Voilà, oui, complètement. Complètement. On vous renvoie vraiment. Ce match est vraiment fabuleux. Hein,
côté obscur d'Anakin Skywalker.
Ouais.
Un des meilleurs matchs de tous les temps.
Bah là, il déconnecte, c'est même plus obscur, quoi. C'est plus berserker qu'obscur, quoi. Et ouais, un des meilleurs matchs de tous les temps. Et en tout cas, c'est sûr, je pense, de l'année.
Après, il a toujours ce côté en promo, quand même, dès qu'il parle, il a toujours ce côté un peu. Très très humble, très,
oui, mais c'est
très
ça
effacé.
Qui est génial.
Mais en fait, c'est charismatique. Ça peut aussi être charismatique, en fait.
Bien
ça,
sûr, bien sûr. Parce que, en plus, rajouter à ça, pour ceux qui connaissent vraiment pas Kota Ibushi, le mec est beau comme un dieu. C'est vraiment une statue grecque, quoi. Il est impeccable physiquement. Il a une petite gueule de lover japonais, effectivement, voilà, qui vend bien l'ensemble et qui fait le job. Et du coup, il y a ce côté très mignon quand il est là, qui se trémousse au sol.
Oui, et c'est très. Enfin, c'est mignon. Je dirais que c'est touchant.
Et puis il y a un côté rêveur aussi.
Oui, oui. Et
il
tu
est
sens
toujours
c'est...
dans l'optimisme et dans le. Ouais. Mon rêve, c'est de devenir champion. Mon rêve, c'est de gagner ce tournoi.
Et c'est peut-être ça. C'est peut-être ça.
Et toujours dans le côté humble, pas en mode lui, je vais le battre parce que je suis meilleur. Mm. Juste, j'ai envie de réaliser ce truc et je vais essayer de faire de mon mieux pour le réaliser.
Au final, si ça fonctionne, c'est qu'il arrive à nous.
Il arrive à
nous transporter dans un personnage comme si ça pourrait être un personnage de film. Enfin, je veux dire, ouais, il arrive à nous transporter dans un personnage auquel on croit.
Complètement.
C'est ça qui est tellement dur et en fait assez rare.
Il a un désir
rare,
et on
le
peut s'identifier à ce désir.
De la même manière que les Golden Lovers. Moi, les Golden Lovers, j'ai vraiment découvert la généalogie du truc dans l'après-coup, parce que je ne les avais pas connus à l'époque, de tout le lien de la DDT. On vous renvoie encore une fois à cette magnifique vidéo de Showbuckle, qui maintenant est disponible sur Vimeo, qui retrace toute l'histoire des Golden Lovers. Mais voilà, tu sens l'authenticité du truc, au point où des gens se demandent encore aujourd'hui si, et on s'en fout, et ça les regarde, si Kenny et Kota Ibushi sont amoureux à l'écran comme à la ville, quoi. Donc voilà, bref.
Moi, pour embrayer sur autre chose, mais je pense que la question se pose parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Comment ça se passe pour déterminer si, par exemple, un catcheur comique est charismatique?
Merci.
Est-ce qu'un Colt Cabana, est-ce qu'un Orange Cassidy est charismatique? Parce que c'est pas les mêmes paramètres pour le coup. Parce qu'il y a un recul, il y a un second degré dans le catch avec ces gars-là.
Oui. Et moi, je te répondrais très, très sobrement. Bien sûr que ça peut fonctionner aussi. Colt Cabana, je ne connais pas assez, donc je vous laisserai la parole, surtout à toi, Félix.
C'est pareil, c'est des catcheurs dont le personnage essaie de nous faire rire.
Oui.
Pas de nous fasciner ou.
Alors,
ou
à la nuance.
Être humain en nous faisant rire. Donc,
bien sûr.
Dire, ça peut fonctionner aussi.
Oui, mais est-ce qu'être humain, ça suffit à être charismatique?
Pour moi, pour le cas que je connais.
Pas pour tout le monde.
Pour moi, pour le cas que je connais, en l'occurrence, comment on appelle ça, Orange Cassidy, oui, ça fonctionne très très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des vraies qualités athlétiques dans le personnage. Si vous le connaissez pas, donc là, il se fait de plus en plus connaître après le cercle indépendant depuis qu'il a rejoint la AEW. Et donc, c'est un personnage qui a pour. On va dire gimmick principal, d'être extrêmement ralenti, de catcher les mains dans les poches et de ne au maximum ne pas les quitter, donc ses mains dans ses poches.
Lunettes de soleil sur le nez.
Lunettes de soleil sur le nez, et il y a plein de gimmicks qui font que voilà, il va se débrouiller pour les remettre sans enlever les mains des poches.
Genre, par exemple, est-ce que Santino Marella, à l'époque, il était charismatique?
Oui.
Ah ouais, oui.
Non, alors moi ça n'a pas marché. Ça défend la diminution, par exemple. Parce que tu vois, moi je réponds oui comme ça. Parce que.
Oui, dans le côté touchant, moi je trouve.
Non, mais c'est aussi. Après, c'est toujours la même chose. C'est que qu'est-ce qu'on. Je pense qu'on veut dire plein de choses différentes par charismatique. Donc ça dépend des risques.
Bah, explique-toi déjà sur ton oui.
Ouais, moi j'aurais dit oui instinctivement parce que. Tout simplement, c'était une grosse star à WWE qui avait plein de promos et qui tenait des. Enfin, il tenait ce personnage à la télévision. C'était un personnage important, quoi. C'était un personnage important, c'est qu'il était charismatique, quoi. Je veux dire, sinon ça aurait pas fonctionné, ils auraient arrêté.
Mais là, c'est l'œuf et la poule, quoi. Ouais, est-ce que c'est parce que c'est un personnage important qu'il est charismatique?
Oui, parce que tu peux pas faire un personnage important. Oui, parce que comme je te dis, tu peux pas faire un personnage important si ça marche pas.
Et
avec un autre, ça aurait pas marché.
Et je reprends ton terme de tout à l'heure. Il est touchant. Il est touchant, pas dans le sens genre il fait pitié, il y arrive, mais vraiment il est touchant parce qu'il y a une forme de sincérité. Moi je pense que dans la dimension de charisme, on peut peut-être encore faire un double embranchement avant d'amorcer plus ou moins, mais je pense qu'on aura plein d'autres exemples. La conclusion, c'est tu vas avoir le charisme qui vraiment va être dominant, celui, on va dire, le charisme à la Goldberg, et puis un charisme où tu sens l'abnégation, le dévouement, j'allais faire une Jean-Claude en disant la dedication, comme on a pu dire pour un Kota Ibushi qui finalement est besogneux, n'est pas dans un truc aux yeux les plus gros que le ventre, et que ça vient dans une alchimie globale à la fois de la culture japonaise.
Ouais, pour
de
le coup, Santino Marella, il avait cette complexité-là qu'il nous parlait de ses aspirations, il interagissait verbalement avec les autres, et physiquement aussi.
Ouais.
Mais Orange Cassidy, par exemple, il ne s'exprime pas.
On verra bien.
On ne sait pas quels sont ses rêves, on ne sait pas quelles sont ses motivations.
Je
ne
connais pas Orange Cassidy, du peu que j'en ai vu, pour moi, c'est un gimmick. Donc moi, je vois pas, je peux pas voir ce qu'il y a de charismatique parce que je ne le connais pas en tant que personnage. Je le connais que comme gimmick. Mais par rapport aux humoristes, parce que justement moi je voulais la question elle est intéressante par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'un catcheur comique peut être charismatique, est-ce qu'un mec qui fait du stand-up est charismatique? Oui, carrément.
Il n'y a rien de plus charismatique qu'un mec qui fait du stand-up. Mais là c'est pas pareil, c'est pas du stand-up qui fait, là c'est plus un Buster Keaton, quoi.
Alors
Orange Cassidy,
qu'on quitte pas quand même l'idée de Orange Cassidy, moi pour après avoir flashé sur lui, avoir commencé à quand même regarder un certain nombre de matchs, t'as des éléments, alors ils sont pas homogènes parce qu'ils sont pas dans une même fédération, mais tu as un personnage quand même qui se construit. Moi je me rappelle d'un match notamment avec Kyle Ray, où il y a un côté comme ça, hommage mutuel, ou encore je crois que c'était contre qui, contre David Starr ou Noam Dar, je me souviens plus. Un match très très stiff, etc.
Ça doit être David Starr.
Ouais. je me souviens de beaucoup de poils, donc ça doit être David Starr. Oui, c'était David Starr. Donc je pense qu'il y a quelque chose quand même qui se dessine d'un personnage et d'une forme de charisme, de valeur, même si elles sont un peu rigolotes, le fait d'être comme ça, nonchalant, de vouloir essayer de faire le moins d'efforts possible, mais d'être pour autant compétitif et de vouloir gagner, voilà, il y a des trucs qui se dessinent et qui forment dans la fin un charisme. Et puis c'est ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on construit. Il y a des gens qui vont dire pour moi c'est inconcevable de constituer quelque chose d'un charisme pour ce mec là parce que c'est pas pris dans une trame écrite machin, là où ça peut s'écrire de manière plus isolée dans des cas de catcheurs indépendants, quoi.
Et alors là, pour le coup, sauf si tu as encore un avis, Michael, sur le côté comique, donc pour le coup, je peux enchaîner sur un truc qui vient de m'apparaître dans mon esprit.
On parlait d'illumination.
Je sais pas si c'est de la lucidité, mais on parlait de charisme, et là, tu évoquais les valeurs du personnage. Et on a beaucoup parlé de charisme chez des catcheurs qui étaient majoritairement babyface. Est-ce qu'un catcheur qui est vraiment heel au point qu'on le hue pour ce qu'il dit et parce qu'il génère comme valeur, est-ce qu'il peut être charismatique? Est-ce qu'un MJF, qui est vraiment le plus sombre des connards jusqu'au bout, même avec les fans en off, est-ce qu'il est charismatique?
Moi je vais te dire oui et non. Et je pense que là, on arrive, ça va virer philosophique, mais on arrive à la dimension de la morale. Dans le cas des heels, et tu fais bien de poser la question, la morale, c'est-à-dire typiquement, on va prendre un exemple très récent, MJF, effectivement, avec ces espèces de punitions sur Cody, ses coups de ceinture. Moi, j'étais sur un truc très limite, en sachant évidemment c'est de la fiction, blabli, blabla. Et je me disais, ouais, jusqu'à quel point ça va, mais est-ce que je me posais encore une question sur le personnage, ou est-ce que je me posais une question sur le moyen d'alimenter cet arc narratif? Donc pour moi, dans mon esprit, ça, je pense que c'est la dimension de répétition aussi. C'est-à-dire que quand c'est pris isolément, que tu vas avoir un pic d'un truc comme ça, assez abject, chacun y voit ce qu'il veut, mais moi je voyais autant de dimensions abusives de parents qui tabassent leur môme que des trucs limite esclavagistes. On y construit les images qu'on veut. Hein. Si c'est pas un truc qui va finir par se répéter, devenir un truc problématique, même d'un point de vue évidemment politique, dans les représentations, moi je te dis ça passe, ça peut être charismatique. Après, je pense que ça devient pernicieux quand c'est des ressorts qui vont être dégueulasses, quoi. Tu vois, si c'est vraiment un truc qui se répète, tu te dis mais c'est tout le temps les mêmes mécaniques qui sont quand même, c'est même plus de l'agressivité ou des bas instincts, c'est vraiment un truc qui vient servir
une haine
ouais, ou de la haine
particulière,
voilà,
genre haine raciale ou genre
par exemple, voilà, ouais, tout à fait.
Ah, j'avoue que je vous me perdais un petit peu. moi, je vois pas trop en quoi la moralité vient jouer un rôle dans le fait que ce soit charisme ou pas.
Bah, personnellement, moi, ça peut me faire décoller au niveau de s'il y a un personnage.
Oui, mais quelqu'un
de
peut
fiction.
Être haï et c'est pas pour ça qu'il est pas. C'est toujours du charisme en fait.
Attends, quelqu'un peut être haï et par
c'est, pardon. C'est pas pour ça que c'est pas. Enfin, il peut être charismatique tout en étant haï, c'est aussi une forme de charisme. Après, encore une fois, c'est que, oui. Ça dépend comment on définit le charisme.
Non.
Mais pour moi, les heels.
Ça dépend des recours, je disais, ouais. Pour effectivement pour constituer ce charisme.
Ouais.
Je vais te dire, si la personne va prendre des mécaniques permanentes d'une certaine forme d'humiliation, où vraiment il y a un moment, ça, entre guillemets, ça vient plus faire sens. Pour moi, je peux perdre cet attrait, okay. Ce qui va
parce
faire...
On parlait du charisme en tant que fascination. Et il peut y avoir de la fascination, genre au cinéma ou dans les romans, de la fascination pour les serial
c'est...
killers ou pour
oui,
les...
Ouais, ce voilà. Que je veux dire, c'est que par rapport à la question que toi, tu posais, pour moi, les heels sont plus facilement charismatiques que justement. C'est pas pour rien si...
Non, mais il y a les heels.
Par exemple,
il y a
Balor...
le heel vraiment aux valeurs morales vraiment
ah oui,
abjectes.
Que de ce heel-là, toi, pas des heels en général.
Pas de tous les heels du monde.
Ok.
Tu vois, il y a les heels un peu cool qui se foutent de la gueule des gens, qui mentent ou
non,
qui
mais par exemple, Finn Balor, il est plus charismatique en heel qu'en face.
Mais Finn Balor, et c'est quoi ses valeurs de heel? C'est quoi ses valeurs qui sont moralement abjectes?
En vrai, il est vénère, quoi.
Oui, mais
c'est juste un mec vénère
il est
qui
prêt
s'en
à
fout
tout,
un petit peu de son adversaire, mais
voilà.
C'est tout, quoi.
Il est prêt à tout, effectivement, pour dominer. Est-ce que
il est égoïste sur les bords,
ouais.
Mais ça va pas plus loin. Il y en a pas un qui va nuire à l'autre. Dans sa vie, même pour le personnage
fictif. Est-ce que Suzuki est charismatique?
Grave.
Ah bah lui,
il fait des choses horribles, Suzuki.
Oui, il tape des Young Lions en défense, par exemple.
Bon. Mmh. Il est charismatique.
Oui, mais tu vois, là, c'est un très bon exemple parce que ça rentre aussi dans un truc. Quand je parlais de dimension politique, l'exemple des Young Lions, il est parfait parce que ça vient, tu vois, te mettre en avant. Une logique extrêmement martiale auquel, si on connaît un minimum la NJPW, on est tous familiers. On sait qu'il y a des gens où ils poussent les entraînements tellement fort qu'ils se mettent à gerber plusieurs fois par entraînement. Enfin, des détails, je ne vais pas rentrer forcément dans le scapo, c'en est un des plus poussés. Et là, quelque part, tu vois, ça vient mettre en avant une réalité politique, c'est-à-dire cette dimension de hiérarchie. C'est je prends, genre j'ai perdu, je suis dans l'espèce d'humiliation la plus crasse, je n'arrive pas à gérer ma frustration, mon égotisme ou ce que tu veux, bah je m'en prends à la personne qui vraiment a rien demandé et qui elle-même a déjà le nez peut-être littéralement dans mon caca parce qu'elle s'occupe peut-être littéralement de brosser les chiottes au dojo et tu vois, ça vient là aussi raconter quelque chose. Bon, c'est extrêmement poussé dans mon raisonnement, mais ça vient dire quelque chose. On n'est pas dans un truc de morale pure, d'humiliation répétée qui ne vient rien dire de rien. Tu parlais du stand-up, pour moi c'est pareil. En ce moment j'ai un agacement profond, ça n'a rien à voir avec le catch, mais pour le stand-up en règle générale, parce que je trouve que le stand-up, c'est excessivement lisse. Et, je veux dire, on est là, oulala, sulfureux, machin. 95% des stand-uppers, déjà que j'ai de plus en plus de mal avec le terme,
en France.
Et, en France, oui, je parle effectivement, c'est excessivement lisse.
Oui,
voilà.
Parce que, oui.
C'est
un parallèle en général en France, c'est pas de toute façon.
Non, c'est certain, c'est certain. Et puis en général, ils sont plus sur un registre beaucoup plus large, théâtre et autres, quand ils ont un vrai propos, enfin qu'ils osent soutenir un propos qui fait.
Mais ok pour Suzuki. Et donc,
j'en ai un autre.
Non, je cherche d'autres exemples de heel. Ou je sais pas, par exemple, Walter est un heel pas très sympa non plus. Il est charismatique, Walter. Après, il fait pas des choses forcément
parce
horribles.
Parce qu'il en impose.
Oui,
il y a
voilà.
Cette question d'imposer.
Oui, c'est d'air général, mais à part ça, il
c'est
a.
C'est quoi
moi, je trouve qu'il est pas très charismatique, mais tout le monde le trouve charismatique. Enfin,
en il en impose, ouais, oui, c'est plus.
C'est pas forcément le plus charismatique.
C'est sa musique d'intro, lui, qui est
charismatique.
Ouais,
il y a des choses qui aident.
Symphonie
du
Nouveau Monde de Dvořák, ouais, c'est fou, quoi. Bah, c'est comme l'entrée de. On a beaucoup parlé, c'était un temps, de Cara Noir, avec effectivement l'acte des signes et toute la mise en scène qui va avec. Bon, Walter, c'est autrement plus sobre, mais ça marche très bien.
Donc, le charisme, enfin ouais, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le charisme peut se mettre en scène.
Oui, tout à fait.
Mais c'est en fait, ouais, il y a différentes façons d'être charismatique, quoi. Il y a
c'est ça qui est génial.
Différents types de charisme.
C'est ça qui est super chouette. Et c'est que dès qu'on veut déceler du charisme, on est déjà en train de se raconter des histoires de nouveau dans le personnage ouais. même qu'on mmh. désigne.
C'est vrai que moi, du coup, j'ai tendance à, peut-être pour simplifier les idées pour moi, à me limiter à la définition de. Pour moi, la question, est-ce que quelqu'un est charismatique ou pas, c'est est-ce qu'il peut, en fait, assumer sur ses épaules, en tant que personnage seul, une partie du show ou pas, en fait. Quoi. Mmh. C'est, pour moi, c'est ça, au final.
Oui, ça, c'est
la... charismatique ou pas. Et là où. Et t'as des catcheurs qu'on peut trouver vachement bien et tout, et qui parfois sont. Bon, tout, mais en fait, tu te dis, si tu l'imagines un peu tout seul, comme ça, ou être le leader du truc.
Genre Bret Hart, quoi, à l'époque.
Bah, Bret Hart, au final, a été charismatique.
Oui, mais ça, il l'a gagné au bout d'un moment.
Ouais, voilà.
Au début.
C'est vrai que c'est pas évident c'est... parce qu'il est très froid. C'est un peu un. J'allais dire un truc. Je veux dire, c'est un peu à Salada. Mais bon, tu vois.
Je t'ai brainé, là. Pour le...
Ah non, mais c'est pour toi, c'est pour l'époque, ça te.
C'est cadeau.
Ça t'énerve. Mais. Mais oui, c'est un peu à ça dans le genre, ils ont le sens où il était froid. Je pense qu'il a jamais eu l'air sympa, surtout quoi. Alors, est-ce que c'est une question justement, voilà, est-ce qu'il faut être. C'est marrant parce que Bret Hart au final avait énormément de fans chez les enfants et tout avec ses lunettes et compagnie, mais c'est les lunettes en fait. C'est les lunettes qui étaient charismatiques en fait.
C'était la marque
mais,
des lunettes.
Mais parce que lui, Bret Hart a toujours eu l'air d'un mec super froid, pas sympa du tout, qu'il aimait personne.
C'est vraiment juste à la fin de sa carrière, c'est pour ça. Après ses grosses rivalités, et tout ça. Et quand il est devenu heel aussi, ou quand il a pu s'exprimer un peu plus.
Est-ce que Lesnar est charismatique, par exemple? Lesnar, c'est intéressant. Physiquement, il est charismatique.
C'est le même charisme que Goldberg.
Ouais,
ah non, non.
Il dégage, il dégage une prestance de
mec,
folie.
Non mais Goldberg a un côté... Non mais physiquement, il dégage quelque chose, c'est sûr. Goldberg, quand il s'exprime maintenant,
Goldberg.
Il a un côté...
Mais pense au Goldberg de départ.
Oui, moi je le connais pas. Non, je peux pas y penser.
Je peux pas y savoir.
Mais il a en tout cas.
Un Goldberg qui parle pas.
Ouais. Toc toc toc. Boum,
non mais le truc avec les stars, c'est quand même que je te rappelle qu'il s'exprime avec une petite voix des Texans. Il parle comme un espèce de petit mec nul. Il est pas
tout charismatique. C'est pour ça qu'ils le font pas parler d'ailleurs.
Oui voilà. Mais donc du coup, il est pas charismatique en fait.
Si, des fois ils le font parler, mais juste pour une phrase.
Et surtout, qu'on considère
banal.
Pour le coup, par rapport à ce que tu disais, les stars, pour le coup, ne donnent pas du tout l'impression d'avoir ni de cœur, ni d'humilité.
Ah oui, lui, c'est un job pour
c'est
lui.
C'est un mec dont on sait qu'il n'aime pas les gens, qui vit très loin des gens, qui fait ça pour le fric. Enfin, il y a zéro empathie à avoir pour lui. Donc, pourtant, bon, il a
quand
un certain
il est dans
charisme,
un match,
mais parce qu'il tabasse tout le monde aussi. Là, ça vient aussi de ça, quoi.
Alors, je pense qu'il y a, entre guillemets, pour le cas de Lesnar, pour moi, il y a deux cas de Lesnar. Il y a le cas vraiment du Lesnar avant ce retour et cet énorme règne depuis quelques années à la WWE, et notamment d'un personnage quand même, de ce que j'ai lu, assez connard sur les bords, notamment ce moment où il était parti avec le titre d'ANJPW de l'époque sans le restituer, enfin des trucs où déjà même humainement, bon après il y a peut-être des détails, on sait pas, et où là oui, le mec était sur son ego trip et où je sais pas si à l'époque je l'aurais fondamentalement trouvé charismatique. Aujourd'hui je le trouve charismatique parce qu'il fait partie d'un système. Et c'est affreux, malgré ce qu'on a pu dire la dernière fois sur les dimensions d'humiliation, etc. Il peut y avoir une forme d'harmonie et de fascination. On n'est pas à l'abri. Pour moi, c'est un pur produit WWE, quoi, Lesnar.
Il est grand, il est musclé.
Ouais, il est musclé, après, il est prêt à
d'autorité
tout.
Aussi, quoi.
Il a bien une forme de...
Quand t'as l'impression que les mecs sur le ring ont peur de lui immédiatement.
Enfin, bien sûr, et puis il y a de
dégage
quoi.
Un truc...
Et puis il y a de quoi, je pense objectivement, quand tu vois quand il pète vraiment un boulard, genre quand il a dégommé la tronche de Orton...
C'est un autre genre de charisme, là c'est la légitimité... physique et de compétences, quoi. Genre, tu sais que parce que le catch, et là on entre dans la nature même du catch, quoi. C'est un sport de combat, certes fictif, mais c'est un sport de combat. Donc si tu sais que ton adversaire en face, il peut vraiment te mettre à terre, vraiment te mettre KO, voire te tuer, forcément que t'as du charisme là-dedans.
Et c'est ces moments-là où pour moi il cessait, quand j'ai vu deux extraits d'ailleurs de Botchamania, bon, un que j'ai déjà décrit qui a été assez connu quand il a dégommé Randy Orton un peu trop, et Dieu seul sait que j'ai pas Orton dans mon cœur, et un deuxième, je crois, je sais plus avec qui c'était, avec John Cena ou je sais plus quel catcher, qui s'était loupé, qui l'avait un peu botché, qui lui avait mis un coup.
C'est Braun Strowman.
C'est Strowman. Ouais. Et ouais, il a commencé à le dégommer, du genre reste mignon, il a commencé à lui mettre des coups de genou. En fait, mode UFC,
c'était pas qu'il avait botché un truc, c'est que Braun Strowman était censé résister un petit peu, pas trop vendre Lesnar.
Ouais.
Mais en fait, il commençait à rester un peu trop longtemps et Lesnar était en mode bon, maintenant tu vas vendre,
te coucher. Ouais.
Et si tu vends pas, bah je vais te faire vendre, donc tu vas te prendre les. Ouais, tu vas te faire mal et tu vas tomber
là,
par terre.
Là, à ce moment-là,
c'est une autre vieille mentalité du catch.
Oui.
Aussi, quoi.
Et là, à ce moment-là, il m'a perdu, tu vois, dans ce côté-là abject. Pour moi, il avait pendant un petit moment, j'étais un peu.
C'est intéressant parce que alors du coup, j'essaie de comprendre. Donc en fait, toi, quelque part, pour trouver quelqu'un charismatique, tu as besoin d'avoir une certaine forme de respect pour lui.
Oui, 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 de respect. On parlait de valeur, d'ailleurs, sur certaines
j'ai une
émissions.
Question horrible.
Oui.
Je sais pas si...
Vas-y.
Non, mais c'est intéressant par rapport
au
sujet.
Ouais.
Alors, est-ce que tu trouves Hitler charismatique? Parce qu'en fait, Hitler, c'est ce qu'on appelle un leader. Non, mais tu vois, pourquoi je te pose la question? Parce que pour moi,
c'est
le charisme,
de la
c'est pas quelqu'un... Qui a du mérite ou quoi que ce soit. C'est un leader, c'est la définition d'un leader charismatique.
Moi, je pourrais difficilement me positionner parce que c'est des éléments effectivement rapportés d'histoire. Pour moi, je peux me baser que sur et puis
non,
en
mais
plus
tu vois ce que je veux dire.
En plus non mais en plus on est sur non mais j'allais dire on est sur de l'histoire l'histoire avec un grand H, histoire réelle. Non, ça change rien. Mais il a eu à part te dire une évidence qu'il a eu un charisme et une influence monstrueuse, mais ça rejoint ce que je disais sur Lesnar, c'est-à-dire que sur un moment
Lesnar
et sur un moment et sur un... vous voyez il y a pas de point Godwin ici sur le moment effectivement pour Lesnar ça a fonctionné parce que il était en lien avec le système. Là je vais faire un peu historien à deux balles, mais Hitler c'était aussi une synergie avec le contexte socio-économique, avec une misère crasse sur laquelle il a su utiliser des ressorts, effectivement.
C'est comme ce qu'on disait avec, encore une comparaison avec Hitler, mais ce qu'on disait avec Mil Muertes, quoi. C'est un charisme qui naît aussi de l'environnement, quoi. Genre, le mec peut être charismatique, mais il l'est encore plus dans un certain contexte et dans un certain avec un certain terreau en fait. Quoi.
Tu peux pas prendre isolément. De toute façon, il y a toujours.
Et pareil pour Lesnar. C'est par rapport au système. Celui qui favorise les grands, musclés, imposants. Bah oui. En dehors de la légitimité qui peut être.
Il y a des grands musclés à AEW qui sont pas charismatiques.
Exactement. Mais lui, il a la légitimité en plus qui joue dessus.
Braun Strowman est charismatique, on va dire.
Et l'histoire aussi. L'histoire Lesnar, en fait. Hein, parce qu'il débarque pas de nulle part. Lesnar.
Oui, oui. Mais oui, ça tient pas à grand chose parce que Braun Strowman, par exemple, il est charismatique. Parce que d'un côté, il pourrait avoir un côté un peu grandadé en fait et pas tellement charismatique. Par exemple, je trouve pas que Ryback soit charismatique dans ce genre-là.
Il y a qu'à voir toutes les discussions qu'on a en off, le nombre de catcheurs où, au début, avant d'échanger avec vous, notamment avant le début du catch à casse, où j'étais absolument pas emballé. Je vais prendre un exemple concret, Zack Sabre Jr. au début. alors là, franchement, je me dis, le mec il ressemble à rien, même son catch, bof. Et puis, voilà, en affûtant mon œil et mon âme, et en regardant ces matchs avec attention, je me rends compte que pour moi, c'est un des mecs qui est dans mon panthéon du catch maintenant. De la même manière que je vous ai gonflé, enfin, peut-être pas tout le catch à casse, mais est passé de ce côté-là, mais avec Kisly, où à l'époque, je vous disais, ah, trop bien, les matchs de la PWG, et où finalement, tu vois.
Intéressant, moi, Kisly, par exemple, je suis... non, Kisly, je suis partagé sur son charisme. Alors, j'adore Kisly.
Oh, moi aussi. Hein.
Je suis un peu partagé sur son charisme, mais pareil par rapport à mes problématiques, moi, de sincérité, en fait. Le problème pour moi de Kisly, c'est que il est toujours dans une posture assez...
c'est très bizarre.
Comment dire en français ?
Monocorde.
C'est oui, ça.
Parce qu'il y a un truc très bizarre, je ne sais pas si tu as remarqué en ce moment, à NXT, tu sens au niveau de la sincérité, et c'est là où aussi je l'apprécie, il est sincère même quand ça ne va pas, quand le public chante pour lui, et à NXT, le public il peut vraiment y aller en mode lourdingue des fois, et qui fait son petit truc des doigts comme ça pour chef d'orchestre, il y a un moment, tu sens que c'est trop long, du genre, les gars, il y a un moment, vous arrêtez, parce que j'aimerais bien qu'on fasse du rythme. À la promo, à l'arc et puis aux autres catcheurs qui vont arriver.
Non, mais en plus, il a ce côté, il a ce gimmick. J'espère qu'il va le quitter un peu, mais il a à la base ce gimmick où il fait des espèces de sourires un petit peu ravageurs tout le temps. Il est un peu en mode je suis cool quoi qu'il arrive. Et moi, en fait, ça finit par me mettre un petit peu en dehors du personnage parce que c'est un peu faux en fait. On a envie de le voir dans. Oui, voilà, on a envie de le voir dans une rivalité où il est hyper énervé, il a envie de tuer le mec quoi, en fait, tu vois, et où il est pas là en train de faire la pause.
Il faudrait un mec qui puisse le tenir. C'est ça, je pense, c'est le problème de Kisly.
Ça va arriver.
Oui, probablement. Tu le mets face à un Strowman, ça peut arriver, ou face à un Lesnar, c'est arrivé d'ailleurs.
Même,
quand il était un peu en mode pétochard.
Ouais, Rumble, mais ça va pas durer très longtemps. Mais oui, et du coup, donc c'est intéressant. Il y a l'histoire de la sincérité et
la connaissance du personnage en fait.
Oui, c'est le maître. Ouais.
Plus le personnage a de complexité et plus on peut comprendre ce qu'il est, mieux on peut apprécier son charisme.
Plus on peut faire une émission d'une heure sur la question.
Bien sûr.
Non, c'est vrai. Est-ce que. Moi, je crois que le maître mot, peut-être, qui est beaucoup ressorti, c'est sincérité. Hein.
Moi, je pense à la fascination aussi.
Oui. C'est peut-être les hashtags qu'on va rajouter pour, pour l'émission. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui voulait un dernier exemple pour la route Mussolini, peut-être, Michael.
The cult of personality.
Eh bien, très bien. Moi, je pense qu'on va peut-être terminer sur cet instant en chanson musicale improvisée. Eh bien, messieurs, comme d'habitude, un grand, grand, grand merci. C'était très... très chouette, très viscéral cette émission.
C'est
bien, voilà, ça fait très philo, très très thérapie de groupe. on a eu Mickaël la dernière fois qui a vraiment pu mettre en avant de manière très talentueuse toute la question de Kevin Owens. Et là, voilà, on s'est aussi
son œuvre.
Pas mal. et ben merci. Comme d'habitude, où quelles sont vos vies, vos œuvres, où est-ce qu'on vous retrouve, Mickaël? Donc toujours Orioto,
ouais,
il me semble.
Toujours Orioto.
Jour et la nuit, en alternance.
Instagram, Twitter, tout ça, Facebook. Et donc maintenant, on peut me trouver sur Dreams aussi, donc qui est un jeu PS4 qui permet de faire des jeux. C'est toujours un peu compliqué à expliquer comme ça.
Vous pouvez créer votre jeu avec un jeu.
Voilà, et sur lequel je travaille, moi, sur un jeu de plateforme assez ambitieux. Ça fait déjà 7 mois que je bosse dessus, et il sortira a priori dans 2-3 mois.
Yes.
Et donc on peut trouver en cherchant mon pseudo dans Dreams. Voilà.
La pâte à modeler du jeu vidéo par Orioto. Très bien. Donc, et puis, tu oubliais donc tes illustrations chaque semaine
et, voilà.
Et ton Patreon si on veut t'aider ou en tout cas se faire une idée via ton site dans un premier temps.
Si on veut m'aider à payer le W Network.
c'est ça. Félix.
Et ben moi, sur Twitter, il y a tout ce qu'il faut. @phelyks_g.
Yes.
Je partage tout ce qui est critique de cinéma,
série.
Et puis, article de fond sur le catch, avec l'exception de catchesque. Mm. Et puis, sur Facebook, allez vous abonner sur Alt Wrestling pour tout ce qui est catch non WWE.
Mm. Et sinon, des envolées cinéma hein, sur critiquedemerde.wordpress.com. Pour ma part, bah, c'est d_ Mehdi, M-E-H-D-I. Pour le reste, vous avez toutes les infos, sur les, particulièrement sur les tweets épinglés et sujets épinglés sur le Facebook et le Twitter de Death Podcast, D-E-E-Z Podcast avec un S à la fin, mais je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Et vous nous retrouvez de plus en plus régulièrement dans la joie, la bonne humeur, parfois la fatigue. Hein, vous avez le deuxième live, on était un peu au bout de nos vies, mais on vous a livré quand même un catch-a-cast live sur le Wrestle Kingdom. Et plus récemment, donc sur les news, mais en tout cas sur Twitch, twitch.tv/deathpodcast. Et sinon, si vous n'êtes pas là en direct, en différé sur la chaîne YouTube, vous retrouvez tous les lives. On vous remercie comme d'habitude. Portez-vous bien et à la prochaine fois sur le ring. Ciao!
Bye bye. Bye. We'll be right back.
Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, D-E-E-Z, podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.
En imposer pour ne pas avoir à imposer, voilà en quoi consiste le racisme. Le racisme.
Ben voilà.
On voit qu'il est tard au moment où on enregistre l'émission. Je recommence pour le montage, peut-être.
Tous les musulmans, moi je mange la glace. Il y en a qui mangent pas, moi je mange la glace. Moi je mange la glace.
C'était quoi le trip du mec en fait à la base?
Il y a deux théories.
Ouais, il y a théorie ramadan et théorie gélatine de porc. Tu sais, dans les glaces, les trucs sucrés. Ouais. Ça va loin. Voilà, voilà.